Et bonjour à tous.
Bonsoir à tous.
On se retrouve aujourd'hui pour la 7e émission de la saison numéro 2 de Crossroads. Donc on continue ce nouveau format qui n'est plus si nouveau du coup, puisqu'à partir de quand est-ce quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Et aujourd'hui on va parler donc des artistes et des labels. On fait directement le lien avec l'émission du mois précédent. On a parlé des supports et des...
Du format dans la musique en fait.
Des formats dans la musique de façon générale. Donc là on continue un peu cette exploration, un peu on va dire de comment la musique est distribuée, se construit, s'échange, est produite finalement de toutes les différentes étapes possibles et variées. On va donc s'intéresser plus particulièrement au label, son rôle dans la production de musique enregistrée. Alors, on va peut-être tout d'abord démarrer par une définition qui date de 2015. Alors je vais tout simplement la lire. Un label est une marque de production, de commercialisation ou tout simplement un identifiant. Elle reflète un savoir-faire, une direction artistique, une identité. Un label désigne la marque commerciale sur laquelle une structure décide de réaliser ou d'éditer un certain type de production pour des raisons d'homogénéité de catalogue ou de ligne éditoriale. Alors cette définition de Paul Besson, qui est le directeur de l'Institut des métiers de la musique, donc comme je disais, elle est récente, elle date de 2015. Et ce qu'on peut noter, qui va un peu peut-être servir un peu de fil rouge aux interrogations qu'on va pouvoir se poser au cours de cette émission, c'est que vous avez peut-être noté que dans la définition, on ne fait pas mention du support phonographique, du support physique de la musique. C'est comme si finalement, peut-être qu'en 2015, donc déjà quand même, il y a déjà 8 ans, mine de rien, c'était déjà plus si important que ça, où la production physique n'est peut-être plus nécessaire à cette définition, en tout cas n'est plus une condition suffisante. Alors le rôle du label, hein, pour le rappeler de façon très succincte, c'est qu'un artiste, une fois qu'il a produit sa musique, enfin qu'il a créé son album, le label est là pour permettre de distribuer la musique au public le plus large possible. Ce qui nécessite une signature, une signature d'un contrat entre le label et le musicien, l'artiste, le groupe, le projet, appelez ça comme vous voulez, selon la musique que vous écoutez, la réalité est différente derrière. Donc l'idée dans cette émission, c'est de s'interroger sur ces pratiques, sur les relations de pouvoir ou de force qu'il peut y avoir entre les deux, comment c'est structuré. Aussi, on va voir après la question un peu de l'autonomie de l'artiste vis-à-vis de ce label, jusqu'où cette dernière peut aller, mais on en parlera plus longuement ensuite.
Oui, c'est ça. Bah, surtout qu'en fait, on s'est posé le... Il y avait un postulat de base avant de même parler de définition, quoi que ce soit, c'était, on s'est dit, bah, est-ce qu'un groupe, il doit passer par un label pour réussir ou pour fonctionner d'office ? Évidemment que c'est pas forcément le cas ou quoi, évidemment, c'est tout bien. Mais c'était un peu le postulat de départ où, est-ce que le label est irremplaçable, comment il l'est s'il est remplacé, enfin voilà, il y a ces questions-là en tout cas, enfin, j'en reviendrai après, mais du coup voilà, c'était un peu le postulat de départ.
Donc on va faire peut-être un rapide très d'où viennent les labels, d'où ça vient historiquement, toujours faire un petit rappel historique qu'on essaye de faire à chaque fois. Donc au départ, ce qui vont être les futurs labels, en fait, c'est simplement des entreprises qui produisent des supports phonographiques, donc essentiellement pour de la musique classique. Et donc le tout premier label, qui est fondé quand même en 1888, hein, ça remonte quand même un certain temps déjà, donc c'est Columbia Records. Au début, comme l'a dit, c'est des contenus de musique classique, des opéras, puis peu à peu du jazz dans les années 20, que par la suite, vous allez avoir avec les avancées diverses technologiques, donc notamment le format LP, long play, qui va permettre de vraiment enregistrer, on va dire, une unité de sens, le long format.
Qu'on a évoqué la dernière fois,
donc c'est ça qui va vraiment permettre, parce qu'il y a fois, comme on le disait, on va pas refaire l'émission la dernière fois, mais c'est l'avancée technologique qui a donné du sens à la création de l'album comme unité commerciale facilement découpable. Et après, les labels, il y a une extrême diversité, hein, que ce soit le petit label autoproduit qui sert juste à un petit groupe de musiciens à sortir sa musique, comme des labels énormes de métal comme peut l'être Nuclear Blast ou Throat Runner. Ensuite, d'autres labels dont on parlera peut-être plus longuement comme Throat Runner. Ensuite aussi, tu citais aussi Zegema Beach, ou après un label, pour prendre la diversité extrême des labels, un label extrêmement culte des débuts du jazz, Blue Note, qui produisait Coltrane ou Thelonious Monk. Voilà, on ne va pas citer tous les labels, mais voilà,
Def Jam pour le rap, notamment.
Def Jam pour le rap, oui, aussi, il a un rôle un peu
même si, oui, parce qu'ils ont sorti des albums de Slayer, hein, pour la petite anecdote. Mais c'était du coup,
on pourrait passer l'heure à tous les citer, bien évidemment.
Mais on va faire un name dropping, hein, on pourrait faire une émission à part de name dropping, si vous voulez, une prochaine.
Peut-être un bonus caché.
Un bonus, ouais.
Où c'est juste toi et moi qui récitons des listes de labels à l'infini.
ça peut être très drôle à faire.
Bah écoute, oui, du coup, peut-être maintenant à toi peut-être d'introduire plus.
Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que du coup, comme le disait Alexis, c'est que bah, au début, en fait, Colombien, ils vont surtout publier des contenus de musique classique, des opéras, puis des jazz, des musiques jazz, voilà. Et du coup, en fait, cette avancée technologique où on va mettre tout un ensemble de pistes sur une seule face et pas maintenant et pas devoir inverser à chaque fois sur le, ça va permettre à des artistes comme Bob Dylan ou Presley du coup de sortir du coup des albums et de se faire connaître, de se faire repérer aussi, enfin voilà. Et du coup, bah toujours via Columbia Records, parce que c'est quand même le premier label et ils ont, en fait, il y a plein de branches de Columbia Records que en fait on pense que c'est des labels différents à chaque fois, puis en fait non, c'est à chaque fois ça revient à Columbia. Ils ont fait des labels plus rock, etc., comme Atlantic, genre de choses. Et du coup, l'arrivée du rock dans les années 60, mais surtout dans les années 70, et c'est là la contrebalance, c'est que du coup, au milieu des 70, c'est l'arrivée du coup du punk rock, donc avec le fameux do it yourself, du coup, hein, cette doctrine qui régit le punk au début des années 70, au milieu des 70. Je vais prendre une petite citation, voilà, je vais pas... De Joe Strummer des Clash, qui je trouve résume bien cette idée là en disant c'est à toi de prendre les devants car personne ne le fera à ta place, c'est le bon côté du punk. Parce que du coup, en fait, de toute façon, on rappelle, hein, l'idée du punk, c'est des gens qui savent pas jouer et qui essayent de jouer fort, voilà, hein, grosso modo c'est un peu ça, avec plus d'engagement politique en Angleterre et un côté plus rock'n'roll, et puis je m'en fous du coup du côté des États-Unis, même si l'engagement politique va se faire évidemment aussi bien dans l'un que dans l'autre. Parce que l'idée, elle n'est pas nouvelle non plus. Hein. C'est juste que dans le punk, ça prend une autre dimension. Ça devient un critère d'authenticité qu'on pourra retrouver aussi plus tard dans les années 90, notamment dans le rap. Après, je pourrais citer évidemment, j'ai bien envie d'en parler, pour faire une émission dessus, hein, sur le groupe Crass, hein, qui s'inscrit du coup avec, pour le coup, donc, groupe en groupe de punk anglais très emblématique, groupe anarcho-punk, et qui déjà même avant même de parler de musique, eux, ils avaient déjà ce côté vie autonome, un peu en autarcie, tout ça, avec leur engagement. Et donc, du coup, forcément, quand ils ont décidé, du coup, de produire la musique, d'en faire, de faire du punk et tout, déjà au milieu des 70, et puis même dans les années 80, et même encore aujourd'hui, donc ils ont gardé ce côté indépendance, autonomie. Il y a ce côté plus radical aussi dans l'expression, dans la musique, mais aussi, du coup, dans la façon de faire cette musique, dans la façon de la produire, de l'enregistrer et de l'amener. La question qui va se poser du coup, qui se pose un peu en filigrane de tout ça, de tout ce qu'on vient d'un peu d'évoquer dans cette petite introduction-là, non exhaustive évidemment, hein, il y aurait plein de choses encore à dire. L'autonomie en fait, la place de ce qu'on évoquait, on a évoqué succinctement. Comment est-ce qu'on sait que tu crois un artiste est autonome? Comment ça se traduit en fait? Est-ce qu'on peut être autonome en travaillant avec un label en fait, tout simplement? Enfin, c'est une question qui peuvent paraître anodines, mais qui ne le sont pas tant que ça. Et donc c'est un peu ces questions qu'on va se poser, donc on donnera un peu notre avis aussi au fil de, du coup des propos. Mais dans l'idée, on va essayer de rester quand même objectif sur, en se basant notamment surtout sur le contexte, pour un contexte géographique plutôt français quand même. On va citer quelques exemples internationaux.
Sur l'aspect, enfin, dire légal et juridique, c'est essentiellement la France.
Oui, c'est ça, sur l'aspect légal et juridique, effectivement. Et du coup, voilà, est-ce qu'on est autonome en travaillant qu'à la belle pour l'instant? Cette première question qu'on va se poser, c'est ça. C'est le lien entre artiste et label. Après, on verra la partie, donc l'autre pendant, l'autoproduction, un peu plus en détail. Et du coup, on va voir comment ça avance dans l'émission, parce qu'on a été assez,
ambitieux sur le contenu.
Ambitieux, productif, un peu, voilà. Donc du coup, on va déjà faire la partie sur les artistes labels, et on verra si du coup cette émission ne sera pas découpée aussi en deux parties. Voilà, deuxième partie en deux parties. Voilà,
deuxième partie de la deuxième partie.
Voilà, c'est ça. C'est Winterson en émission de radio. Voilà. On en reparlera après aussi de Winterson plus tard, mais peut-être dans la deuxième partie de la deuxième partie. Voilà. Du coup, je te laisse commencer sur le lien artiste et label.
Du coup, il faut bien se rendre compte que là, si on va vraiment au cœur des relations entre le label et les artistes qui vont venir signer sur ces labels, il faut bien se rendre compte qu'il y a une dimension un peu de boîte noire finalement. C'est que pour le public, le commun des mortels entre guillemets, on ne peut pas avoir accès aux contrats en eux-mêmes qui régissent les droits et les devoirs de chacun. Puisque c'est des contrats privés, on n'y a pas accès. Et on peut rêver de savoir exactement toutes les clauses multiples et variées qui lient Nuclear Blast à Slayer, on ne le saura jamais vraiment.
Bah, c'est surtout qu'en plus, tu fais bien de parler de boîte noire, effectivement, parce que c'est ce que je voulais pas te couper, mais on se parlait des litiges liés à des contrats, mais on ne sait pas forcément de toutes les clauses. On entend juste parler d'une clause qui pose problème, notamment des fois avec un artiste, du coup, on pourrait citer Ghost par exemple, avec du coup le chanteur qui s'accapare un peu tous les biens, tout ça, enfin qui s'est posé souci, il y a eu des soucis à une époque. Voilà, enfin donc effectivement, il y a c'est bien cité de boîte noire.
Et oui, donc si on reprend l'évolution du coup des labels, tu parlais de Columbia Records avant, on peut se rendre compte au fur et à mesure des décennies qui ont pu s'écouler, que peu à peu les labels se sont en partie désengagés du processus de création artistique même, pour davantage se concentrer sur la production et la distribution au sens de la production physique, hein, s'entend des albums, de façon, on va dire, très un peu caricaturale, finalement que aujourd'hui un artiste doit amener beaucoup plus sur la table en termes de création artistique, de potentiel, de maquette à montrer au label qu'il y a 20 ou 30 ans.
Bah, c'est surtout qu'avec la multiplicité des contenus qui s'accentue via Internet, faut se démarquer. C'est toujours ce lot-là de... Déjà, il fallait se démarquer avant dans des styles prédépondérants. Maintenant, il faut se démarquer tout court sur peu importe le style. Quoi.
Oui, parce qu'il y en a toujours 100 derrière, en fait, qui peuvent attendre, hein, très, très bêtement. Alors, bien sûr, après, le rôle des labels lui-même, hein, s'est diversifié, puisque avec notamment le streaming, ils vont payer pour propulser dans les algos les playlists de certains morceaux précis. Ils vont payer également peut-être des boîtes de com pour que tel morceau soit inclus dans telle playlist qui est écoutée par tant de gens, et du coup ce serait bien qu'elle soit écoutée par tant de gens parce qu'on sait que ça rapportera de l'argent derrière ou ça positionnera bien le morceau ensuite. Même cette phase-là un peu de marketing, hein, aujourd'hui elle est presque externalisée. Aujourd'hui énormément de groupes qui sont pourtant signés sur des gros labels gèrent eux-mêmes leurs réseaux sociaux. Alors à la fois parce que eux seuls peut-être savent vraiment créer le lien entre l'audience et eux-mêmes, hein, évidemment, plus peut-être qu'une boîte de com ou un label qui doit gérer 100 groupes, et du coup forcément il ne connaît pas le détail de chaque quelle phrase fera vraiment créer un engouement autour de la musique, bien évidemment, mais c'est encore un travail supplémentaire que l'artiste doit fournir. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on a cette impression que l'artiste finalement doit prendre en charge lui-même certains coûts, notamment le coût des prix des différents studios, ce genre de choses-là. Finalement, c'est souvent l'artiste lui-même, là où peut-être il y a 20-30 ans, c'était le label qui allait payer le studio pour que le temps d'un week-end, le groupe aille enregistrer son album. Aujourd'hui, c'est souvent plutôt le groupe lui-même qui va devoir se cotiser mutuellement pour payer ce 10 studio. C'est le genre d'évolution qu'on ne peut que constater, finalement.
En tout cas, plus pour les nouveaux artistes, parce que les anciens qui sont bien installés, en général, ils sont tranquilles.
Oui, c'est plus, on va dire, le moment où il faut faire ses preuves que cette demande va être d'autant plus forte. Une fois que tu es intégré, que tu as signé un contrat pour 3-4 albums, là, peut-être que le quatrième album, on est dans des facilités de financement. Mais en tout cas, le premier, souvent, va être intégralement payé de ta poche, entre guillemets. Et puis, bien sûr, c'est pas une évolution uniforme. Hein. Il y a quantité de labels qui s'investissent toujours considérablement, que ce soit en ayant des artistes pour les pochettes attitrées, qui, du coup, va permettre de créer une ligne éditoriale, une ligne esthétique de cohérence autour du label, ou bien sûr, des producteurs attitrés. Je sais pas si t'as des exemples de producteurs, parce que tu sais que t'as plus les noms plus facilement que moi en tête.
Peut-être, ça sera plus pour le métal, parce qu'effectivement, pour tout ce qui est autre type de musique, j'aurais pas forcément, mais Rick Rubin, pour de chez Roadrunner, c'est... S'il y a un nom, tu vois, j'ai bien retenu, ça fait pour ça longtemps que j'écoute plus trop de groupes de chez Roadrunner, mais il y avait une patte, aussi, on pourrait citer, je n'ai plus le nom, mais du coup, celui qui produisait tous les albums de death metal floridien des années 90, Deicide, etc.
Oui, effectivement, j'ai plus le nom non plus, mais oui, c'est une seule personne.
Mais voilà, il y a une patte, pareil pour encore une fois, le death metal, je pense que ce que je connais le mieux, du coup, le death metal suédois, c'est pareil, voilà, enfin, c'est...
Oui, puis j'avais vu, par exemple, que Misery Index et Dying Fetus, c'est le même producteur pour les deux, ça explique pas mal de choses.
Exactement, donc il y a une espèce de microcosme aussi, selon les scènes, donc là, on parle de death metal parce que c'est ce qu'on connaît le mieux et qui est plus facile à évoquer, mais ça existe évidemment dans d'autres scènes. Enfin, on en parlera après de d'un label de jazz notamment.
Oui, c'est ça, oui, je l'évoquerai après ça plus précisément.
Mais, ouais, mais du coup, voilà, y a vraiment cette idée-là de direction artistique commune.
Et c'est d'ailleurs, je pense souvent, peut-être quelque chose que l'auditeur ne saisit pas, c'est que peut-être que s'il est autant attaché à un son, à une scène, à une époque, peut-être parce que derrière, il y a une personne dont le nom est peut-être beaucoup moins connu que le nom des groupes qui a œuvré sur 50, 100 albums différents et qui a permis l'émergence d'un son, le son du death metal floridien, que toute personne qui s'appelle death metal sait reconnaître immédiatement. Bah, c'est le nom d'une seule personne qui a permis cela.
Et souvent, en interview, plein de groupes disent « Ah bah nous, on voulait envoyer notre mix à tel... pour faire notre mastering, ou en tout cas même envoyer nos pistes du coup à tel producteur parce qu'on sait qu'il fait tel son, il a fait tel son avec tel album de tel groupe qu'on aime beaucoup, donc du coup on aimerait avoir un peu la même chose. Donc c'est cette patte là au travers d'albums, parce qu'il y a aussi des artistes, des musiciens qui cherchent à avoir la même patte que le groupe qu'ils adorent absolument, qui
les influence. Par exemple, il y avait une époque, mais c'était plutôt dans les années 2000, le Hertz Studio qui notamment faisait Vader, il y avait beaucoup de groupes français qui voulaient à tout prix faire au Hertz Studio pour avoir un son voilà, comme Vader.
Alors, oui, c'est ça, mais ça.
Du Vader, c'est pas mal dépassé, mais voilà, à l'époque.
Ça se ressent aussi avec des artistes, même pour faire les covers d'albums, hein, pas forcément que la partie musicale pure.
Oui, bien sûr. Paolo Girardi, Marcus Lewandowski, je crois, est décédé il y a pas longtemps.
Ouais, c'est ça, qui a fait...
vraiment marqué, je dirais. fin des années 2010 de Death Metal Metal Extreme, il est vraiment marqué sur plein d'albums.
Hein. Et qui a fait aussi Bochette de Ghost, qui est le seul truc bien du groupe. Mais c'est un autre débat.
C'est un autre chose. Ah, j'ai plus le nom, c'est un nom polonais que j'ai pas retenu.
C'est pas le même artiste. Pour moi. Alors,
bon. Lui, c'est très dessiné avec plein de petits détails. Et Lewandowski, c'est les peintures lui avec plein de lumière, avec les grands pans de lumière où tu as des paysages un peu énormes et tout. Pochette d'Atlantean Codex, pochette de Bellwitch.
D'accord.
C'est ce genre.
Ah oui, effectivement. Non, bah, je confonds les deux, autant pour moi. Ils ont un style quand même qui peut se rejoindre sur certains.
Bah après, c'est juste que c'est un peu l'immensité spatiale que tu peux, des fois, en tout cas qui moi m'attire dans le métal extrême, est vraiment véhiculée par ces pochettes-là, en fait. Oui, pareil, bah... on peut citer Dan Seagrave avec les milliers de petits détails de petits monstres tourbillonnants dans tous les sens.
Ou Liran Cantor pour le côté plus presque grec un peu sur les
voies. C'est des personnes qui vont, je trouve, un peu solidifier la mythologie du métal ou ce qu'on va y rechercher dedans. En tout cas, je trouve qu'il y a un peu de ça. Un peu. C'est eux qui vont vraiment solidifier ça. Je pense pas que le death metal aujourd'hui aurait une telle aura s'il n'y avait pas eu Dan Seagrave à une époque.
Exactement. Exactement. Et
mais on s'écarte peut-être un petit peu.
On s'écarte un petit peu.
Mais voilà, c'est un peu pour dire que c'est un peu le rôle du label aussi qui va apporter cette profondeur artistique, cette cohérence que des groupes disséminés qui fabriquent dans leur coin n'auraient peut-être pas réussi à obtenir et qui, sur le temps long, va apporter finalement une aura en plus supplémentaire. Et ça, c'est pour moi, c'est là où le label a vraiment une plus-value à apporter. Si pour moi, il a une plus-value à apporter, puisqu'on va voir après au niveau des coûts des financements, c'est vraiment à cette étape-là qu'elle intervient, je trouve en tout cas.
Oui, effectivement. Donc, mais on pourrait citer, ça pourrait marcher pour, je pense, d'autres styles de musique.
Oui, encore une fois, on parle de ce qu'on connaît. Parce que,
voilà. Mais cela dit, je le ressens moins pour tout ce qui est variété française et pop, où c'est souvent des photos, de la photographie.
Oui, bah, c'est une photographie du chanteur.
Qui est
centré sur sa personnalité. Hein, c'est sympa. Oui, donc reprenons un peu le fil directeur. Il faut bien voir aussi que cette évolution, là, on a parlé un peu d'une évolution un peu plus d'un point de vue très général, mais on peut le retrouver également dans les différents types de contrats, en tout cas en France. Il y a, on va dire, trois types de contrats. Alors pour cette partie, je m'appuie en large partie sur l'excellent article intitulé « Les labels, une espèce en voie d'extinction » que vous pourrez retrouver sur le site du Pôle. Alors le Pôle, ça signifie « Pôle de coopération pour la filière musicale en Pays de la Loire ». Donc cet article fait mention de trois, on va dire, grands contrats, comme je le disais. Donc il y a le contrat d'artiste qui lie l'artiste à un producteur pour les frais de production, de fabrication, de distribution, promotion. Et là, c'est le contrat peut-être qu'on a le plus souvent en tête. Hein, c'est là où l'artiste est rémunéré sous forme de royalties qui, à peu près, coïncide pour 5 à 10% en moyenne, on va dire, selon après.
Ce qui est très peu, hein, soit dit en passant.
Oui, ce qui est extrêmement peu. Et puis, bah, c'est un peu, puis les 10%, c'est si vous êtes très connu. Hein, sinon, n'y comptez pas. Hein. Ensuite, il y a le contrat de distribution. Donc ça, c'est lié le producteur, donc celui qui a produit la musique, à une société de distribution. Donc c'est celui, c'est la partie physique, encore une fois. Donc c'est celui qui va permettre, basiquement, de mettre en rayon les albums ou d'uploader les titres sur la plateforme de streaming, hein, tout simplement. Et enfin, peut-être qui est moins connu, mais qui va être au cœur après de ce que je vais développer ensuite, le contrat de licence. C'est celui qui lie un producteur à son label. Le producteur licencie le master au label afin d'assumer les différents coûts de production. Et c'est là où on voit assez vite que dans cette configuration, donc on parle tout d'un secteur où il n'y a pas beaucoup d'argent, les trésoreries sont limitées, on voit bien qu'un artiste pourrait être très tenté de se passer du contrat de licence et directement en fait, avoir juste un producteur attitré et que le label arrive un peu comme un intermédiaire supplémentaire dont on comprend de moins en moins l'intérêt. Puisque si en plus on est dans une configuration où le marché physique, selon les gens encore une fois, puisqu'on l'avait nuancé la dernière fois, peut avoir tendance à s'écrouler, qui peut être perçu comme s'écroulant, ce qui est finalement quasiment identique hein, quand on y réfléchit. Vous allez me dire, bah, je peux payer des services très peu chers qui mettent en ligne ma musique sur toutes les plateformes de streaming, et j'ai un producteur attitré qui est très bon et qui me fait un très bon album, pourquoi aurais-je un label? C'est là où on voit très bien l'évolution et que le contrat de licence est peut-être en train de passer un peu à l'as. Et de la même façon, même pour la distribution en fait, on pourrait très bien se dire que, bah, et ça je pense que c'est peut-être plutôt dans le hip-hop qu'on peut le voir, c'est que pourquoi passer par un label alors qu'on pourrait passer tout simplement pour une agence de com en fait.
Oui, c'est ce qui se passe. Enfin, effectivement, il y a cette idée de, pourquoi investir du coup dans un label alors qu'en fait, je pourrais investir du coup beaucoup plus dans de la com et faire en sorte que mon image soit plus jolie, même si ma musique elle soit bien enregistrée, ça n'empêche pas non plus. Et du coup, en fait, toucher une communauté beaucoup plus grande, quoi.
J'ai un exemple très hasardeux, mais pourquoi ne pas payer un photographe professionnel à un certain prix plutôt que de signer un contrat avec le label qui va ensuite peut-être à des photographes attitrés mais qui vont pas forcément nous correspondre. Alors que tu vois, encore une fois, se dire bah, c'est une étape inutile finalement. C'est un peu le raisonnement qui est de plus en plus mis en avant. Là, c'est une opinion qui va être très personnelle. Hein. Bien que la musique, un peu comme plein d'autres domaines de société, plus ça va, plus elle est séduite par cette figure un peu démiurge de l'auto-entrepreneur qui est capable de tout prendre en compte, de tout faire lui-même, ou même qui rejoint aussi d'autres choses qui sont très à la mode, comme ce qui est lors du personal branding, qui encore une fois marche très bien dans l'hip-hop, dans la variété, ça peut être très vite lié. Et en plus, comme on l'a vu, bah, en termes d'impératif économique, ça fait sens hein, de pouvoir recourir à des prestataires extérieurs ou le faire soi-même, plutôt que de rajouter un intermédiaire dans la boucle. On parlait de personal branding et j'emploie du vocabulaire d'entreprise, c'est parfait.
Ah oui, oui, bah c'est salut à toi, jeune entrepreneur. Hein. Ouais,
c'est, dès que tu en parles, il y a un truc dans le cerveau qui se reconnecte. Mais on peut le voir aussi peut-être d'une façon peut-être plus positive. Là, je vais citer Pascal Boudet, qui, de la Good Citizen Factory, qui est aussi un label, paradoxalement. Et lui, il appelle les artistes à limiter les intermédiaires, et il déclare ainsi « C'est à l'artiste d'être propriétaire de ses propres moyens de production, ce qui fera écho à certaines idéologies que nous ne citerons pas. »
Et du coup, effectivement, bah là, pour rebondir un petit peu, on a fait le... Enfin, Alexis, surtout, a fait une petite recherche du top 50... daté du 11 juillet 2023, d'aujourd'hui.
J'ai écouté tous les morceaux, évidemment.
Et du coup, on remarque qu'en fait, la partie major, la partie label est toujours quand même très présente, mine de rien. Parce que même si l'autoproduction peut être de plus en plus mise en avant, parce que tu as de plus en plus de jeunes qui ont accès à Internet avec un ordinateur qui peuvent bidouiller sur n'importe quel logiciel, des trucs, il n'empêche que du coup, bah voilà, on a le top 3 là, du coup, SDM Bolide Allemand de Booba, du coup.
Non, attends, j'ai peut-être mal écrit, c'est SDM Bolide Allemand et le label, c'est le label 92i qui est le label de Booba.
Ah d'accord.
Mais qu'après, Universal, qui est détenu par Universal.
Ok, d'accord, autant, parce que je pensais que c'était le morceau 92 Iveron alors, du coup.
Non, c'est 92i, c'est juste le label de Booba.
J'ai un peu extrapolé, tant pour moi. Et bah on retrouve la même chose du coup, l'album Boitibé qui est détenu par Sony.
Pour le morceau Tiakola Meda, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, c'est le meilleur des trois de mon point de vue.
Voilà, et puis du coup on a Nino hein, qui est en France très connu, et puis qui du coup est sur le label Eurostar qui appartient à Warner.
Oui, comme j'ai mis, j'ai un doute sur ça parce que c'est sur la fiche Wikipédia c'était marqué Warner, mais quand je googlais les noms des labels autres, j'avais pas retrouvé la Warner, donc j'ai un petit doute. Peut-être que... La mainmise des majors sur ce top 3 n'est peut-être pas aussi inéluctable.
Bah pourtant, on remarque quand même que dans tous les cas, les majors sont
en tout cas, ils sont dans les deux premiers. Quoi. Et comme par hasard, c'est les trois plus grosses qui se partagent le top 3. C'est ça qui est assez amusant à noter tout de même.
Exactement. Et du coup, on va en profiter, parce qu'on n'a pas diffusé encore trop de musique et tout. Bah, je propose même qu'on fasse l'inverse, c'est qu'on va diffuser d'abord, parce que je vais parler d'un label qui s'appelle Froid Truneur. Je propose qu'on diffuse un morceau de ce label d'un groupe qui s'appelle Zero Do It, et ensuite je vous en parle. Comme ça, histoire d'inverser un peu le propos. Et puis, Alexis lui parlera d'un label de jazz qu'elle a très sympathique. Et puis, on rebondira et on finira cette partie-là, du coup, sur quand même sur les labels. Est-ce qu'il y a quand même des choses, il y a quand même encore des petites choses à dire hein, sur l'album, notamment. Enfin, et aussi un peu sur le processus, un peu de création. Le but, c'est de montrer que c'est pas tout blanc, tout noir. On a nos opinions qu'on expose, évidemment, au travers de ça, mais montrer que c'est pas non plus juste les labels, c'est les méchants, l'autoproduction, c'est mieux. Non.
On parle de la musique dans son intégralité, donc la façon dont ça se passe dans un petit label de punk et dont ça se passe dans une grande major est pas vraiment comparable, en fait. Hein.
Exactement. Ce ne sont pas les mêmes pratiques. Mais du coup, je propose qu'on écoute le morceau Consequences, du coup, de The Rodeo Idiot Engine.
We'll be right back.
Et du coup, on vient d'écouter donc, le morceau Consequences du même album de The Rodeo Just Engine, groupe français originaire de Bayonne. Bon, enfin, c'est surtout là pour parler du coup de label et donc du label qui l'a produit et diffusé à l'époque. Quelque chose qui m'a marqué, donc le label Froid Truner, donc formé en 2009, voilà, qui par un seul et même individu, Mathias Gjunbluff. Et surtout, ce que lui, il aimait, c'est la rencontre entre les extrêmes et la rencontre entre le punk et le metal, en fait. Ce qui a toujours été un peu boudé, souvent, par pas mal de... Moins maintenant, hein, beaucoup moins maintenant, évidemment, actuellement, mais à l'époque, même encore à l'époque, où, du coup, le mélange metal et hardcore, même si c'est fait via le metalcore des années 90 et tout ça, il y avait ce côté quand même où des franges plus extrêmes, des fois, les mélanges étaient un peu boudés par les uns, puisque les punk hardcore, les coureurs restent entre eux, les métalleux restent entre eux. Enfin voilà, bref, des bons neuneux qui restent entre eux. Et donc du coup, lui, il a fait un peu ce pari-là, du coup, de fonder ce label-là. Évidemment, ça rappelle le petit label pour ceux qui connaîtraient Death Wish, fondé par Jacob Bannon. Mais encore une fois, avec des différences, parce qu'il y a quand même plus de trucs expérimentaux, tandis que Death Wish est quand même plus ancré metal et punk de façon globale. Là, il a quand même amené son petit lot de groupes quand même vraiment, enfin, qui ont marqué du coup l'époque. Plebeian Grandstand, que je sais qu'Alexis adore aussi. Enfin, en tout cas, les débuts surtout.
Moi, j'aime bien le second album, je crois surtout.
Voilà, des groupes comme Elisabeth aussi, un groupe suisse, mais Cowards, tout ça. Avant l'heure aussi, Primitive Man, hein, les débuts de Primitive Man sur ce label-là. Neseria, Bird in Row, les débuts de Bird in Row aussi, incontournable. Et c'est un label qui, pour moi, c'est qui représente un peu une sorte de, un peu toute la haine musicale que j'aime vraiment, le côté où t'es plongé dans le désespoir tout le temps avec plein de groupes comme ça qui sont, ça pue la crasse, c'est, mais à la fois en même temps c'est ni trop crade ni trop propre, c'est vraiment pile ce que j'aime bien quoi. C'est pas trop crade où on n'entend pas, c'est pas du vieux black metal des années 90 avec un son de merde là, du coup désolé pour le black metal hein, ça, le petit tacle gratuit. Et en même temps, c'est pas trop propre comme des trucs super lisses de Heavy des fois qui sont un peu surproduits, ou des trucs même de deathcore moderne, enfin voilà, qui sont overproduits aussi et ça ressemble plus à grand chose. Donc on a vraiment le côté un peu rugueux, puis en même temps, voilà, il y a une patte, c'est une patine aussi. Il y a un son un peu Froid Truner quand même, derrière. Enfin, un son dans le sens où il y a une esthétique, une direction artistique avec tous ces groupes-là. Et moi, j'ai passé vraiment des heures, ça m'a forgé dans mon esthétique, du coup, dans l'approche de l'esthétique musicale, de ce que j'écoute, de ce que j'aime, enfin. J'avais trouvé enfin quelque chose qui me correspondait à 100%, qu'on appelle aujourd'hui le Gitonecore, mais ça, c'est. C'est plus pour, c'est pour la blague.
C'est des private jokes au long cours.
Private joke. Dédicace à Kant, du coup. On fait des petites private jokes de temps en temps, ça arrive. Mais du coup, là, c'est vraiment un label qui, pour moi, est marquant, puis qui a du coup aussi une éthique, hein, quand même, qui a produit des groupes, voilà, des groupes underground, tout ça. Enfin, voilà, effectivement, ça fait un peu cliché, mais il y a ce côté où on aime bien aussi avoir du coup ces petits groupes à soi, de sa petite scène, de sa petite niche, hein, voilà, de tout ça. Et donc du coup, c'est un label qui me tient à cœur, et puis c'est aussi un des labels, quand j'ai commencé à écouter ce type de musique, tu traînes un peu sur Facebook, tu vas sur des groupes et tu rencontres du coup Alexis sur Facebook comme ça au départ, hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En discutant un peu de certains styles, il commence à se mettre seulement un peu au punk hardcore de façon globale, et puis des groupes un peu du genre, et du coup... comme ça qu'on avait un peu commencé à sympathiser par un de ces groupes-là Facebook qui s'appelait FR Post-Hardcore. Donc il fut un temps, au début des années 2010, donc ça remonte maintenant. Et puis du coup, non, sinon pour le juste en petit quelques chiffres, ça fait quand même quasiment 15 ans que ça existe le label, depuis 2009, hein, et 76 albums, donc ce qui est quand même pas mal, un bon chiffre. Et puis surtout beaucoup de distribution d'autres groupes, et donc du coup, un lien notamment avec Defwish parce qu'ils font la distribution pour Defwish, voilà quoi. Donc. Et mais voilà, c'est vraiment si non, on devait en rester peut-être qu'un éventuellement, même si moi je crois qu'il en reste qu'un, hein, on va pas se mentir, mais du coup s'il en restait qu'un, Froid Truner resterait quand même, je pense, le label que je choisirais pour tout ce que ça représente pour moi dans tout ça, dans ce que j'écoute et dans mon approche de la musique. Et toi, du coup, c'est
mais
du
jazz. Je vais utiliser la même stratégie que toi, c'est que je vais d'abord passer le morceau et ensuite on parlera
copie,
plus longuement du label.
Ça copie, enfin,
je
ça copie.
Je trouve que c'est très bien ça.
Ah, mais c'est une bonne idée.
Ça nous permet de mieux maîtriser le rythme de l'émission. Donc le label dont on va parler, c'est ECM. Et le morceau, ça s'appelle Red and Origins sur l'album Timeless, donc, qui est réalisé par John Abercrombie, qui est, c'est lui qui dirige l'album et c'est un guitariste de base. Jean Hammer, qui lui est au clavier. Et Jacques de Genette, qui est un batteur. Et l'album date de 1974. We'll be right back. et nous venons d'écouter le morceau Red and Orange sur l'album Timeless par John Abercrombie, Jeanne Hammer et Jacques de Jeannette, qui est sorti en 1974. Donc du coup, cet album est produit sur le label ECM. Je vais vous parler de ce délicieux label qui est ECM. Alors j'avais hésité entre Warp et ECM, mais je pense que Warp mériterait presque une émission dédiée, on connaîtra de le caler d'une autre façon. Alors je dirais pas que ECM est un de mes labels favoris pour une raison assez simple, hein, c'est que le catalogue est tellement vaste de ECM que je le maîtrise absolument pas et que je connais pas si bien que ça le label en réalité par rapport à l'immensité du catalogue. Donc c'est un des plus gros labels européens de jazz, hein, qui, on peut le dire, je pense, doit être très influent. Comme la puette, je citais au début d'émission Blue Note, c'est pas une suite, hein, parce que c'est pas du tout la même chose, mais c'est un des plus gros labels, voilà, du jazz de façon générale. Aujourd'hui, selon Rature Music, il a quand même sorti plus de 2395 sorties, ce qui est quand même colossal. Donc il était fondé par Manfred Schaeffner en 69. Alors il est toujours indépendant, mais il est quand même néanmoins, hein, tout de même, on revient toujours à ça, distribué par Universal. Alors c'est un label qui a énormément marqué le jazz, parce que comme d'ailleurs Warp pour d'autres raisons, c'est plus que simplement être l'hôte de grands musiciens, grands noms du jazz, c'est qu'il a marqué, en fait, il a transformé même le jazz de façon un peu indélébile par différents moyens, parce que ce sont l'éthique artistique, une indépendance, des questions spécifiques de production sur lesquelles je reviendrai, des relations avec d'autres acteurs du monde de l'art. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a en fait, quasiment d'ailleurs sur Rature Music, c'est assez amusant, c'est qu'il y a un sous-genre ECM jazz, pour vous donner une petite idée, il y a un son ECM que même des sorties qui ne sont pas sur le label peuvent se rattacher à ce son-là, tellement il était marquant. Donc c'est un son qui est assez feutré, assez atmosphérique. Alors qu'il reste quand même quelque chose d'élaboré, hein. Vous écoutez sur le morceau, il y a quand même tout un jeu un peu jazz fusion et tout. Même si encore l'album Timeless est sûrement peut-être un peu à part parce qu'il est encore marqué, on va dire, comme 1974, il y a une époque où le prog rock est à son apogée et ça se ressent sur la question de l'album et tout, que ce prog rock parallèlement est en train vraiment à son apogée et il est infusé un peu dans l'album, mine de rien. Mais finalement, ça reste quand même un son à la Kimkoji qui est très atmosphérique, très feutré, qui est un peu une sorte d'opposé, de continuation de tout ce qui était la fièvre du hard pop des années 50 ou 60. Qu'il a su prolonger et moderniser. On va dire qu'il a plu, voilà, c'est que c'est des albums qui sont au service d'une atmosphère spécifique, plus qu'une performance musicale, comme peut l'être certains morceaux de Coltrane, ou choses comme ça. Et même au-delà, il y a une approche quasiment ambiante de la musique, voire même post-minimale, en fait, hein, dans la musique que va proposer ECM. On peut dire, voilà, bon, c'est des adjectifs qu'on peut balancer très facilement. C'est une musique qui est élégante, sophistiquée, mais qui reste, on va dire, discrète dans la façon. On voit bien dans le spectre sonore que c'est. La guitare, elle est assez douce. Pareil pour la basse, c'est assez. Ça prend pas énormément de place.
Il y a un côté un peu en retrait, en fait.
Ça, il y a ce côté un peu très distant en retrait, voilà. Putation tient aussi à d'autres éléments, parce que par exemple, ils ont eu des rapports étroits avec le monde du cinéma. Par exemple, ils ont fait des soundtracks pour des films de Jean-Luc Godard. Et aussi, donc, là, je citais Manfred Schaeffner. Il faut savoir que Manfred Schaeffner, c'est aussi le producteur phare du label. Il a produit une majorité des albums sur toutes les décennies, même si ça s'est diversifié par la suite. La façon que le catalogue de ECM se diversifia, il a fait appel du coup à d'autres producteurs, notamment pour le free jazz et d'autres personnes. Mais lui, on produisait énormément. Il y avait une sorte de routine dans la façon de produire l'album, où ça tenait sur 3 jours. Donc il y a 2 jours d'enregistrement, 1 jour de mixage. Ça peut paraître très court, mais comme dans le jazz, il y a cette idée de créer le moment d'exception pour obtenir une performance d'exception, ça rejoint bien en fait l'esthétique du jazz de façon générale, hein, le fait que c'est une musique improvisée, le fait de réunir certaines personnes dans un moment précis pour qu'ils puissent jouer ensemble, qu'il y ait une osmose qui se développe, etc. C'est comme ça que fonctionne le jazz de base, quoi. Plus que des compos qu'on a peaufinés des heures et des heures, c'est pas vraiment comme ça que ça va fonctionner. Mais voilà, le fait qu'il ait autant produit sur en plus des décennies et des décennies, forcément il a imposé sa propre vision du jazz, et c'est ce que fait que le label, malgré c'est un catalogue qui est colossal des artistes très différents les uns des autres, il y a la cohérence artistique qu'on pouvait parler, qu'on a pu développer précédemment dans l'émission. Ceci est un label qui a su mine de rien perdurer dans le temps, parce que voilà, de 69 à aujourd'hui, comme on a pu le voir, hein, le paysage de la musique a considérablement changé. Il a pu aussi s'assurer une stabilité financière, notamment à une époque qui rééditait beaucoup de grands classiques de la musique minimale, le classique contemporain, notamment Arvo Part ou Steve Reich. Peut-être aussi aller peut-être sur le pendant peut-être plus critique, c'est que c'est un label qui a des prix prohibitifs. Hein. J'ai beau adorer leur musique et tout, j'en ai jamais acheté un seul album, parce que en moyenne un album c'est 25€, et je parle bien d'un CD, hein, je parle pas d'un LP. Hein, 25€ l'album, donc c'est quand même très cher. Et puis on voit, je trouve aussi, hein, toute l'appropriation, on peut parler même de récupération bourgeoise à ce stade, hein, d'une musique, alors qu'au départ le jazz, bah, c'est une musique qui est quand même extrêmement populaire, qui est née dans les quartiers populaires, hein, qui est ni de prolétariat racisé américain, quoi, globalement, et on voit bien que bah, là, on est quand même au complet opposé de tout ça, hein, ça c'est un peu évident. Donc, le mojo du label, hein, c'est The Best Sound Next to Silence, et on voit bien que c'est une petite phrase qui synthétise un peu vraiment le son que j'ai pu essayer d'écrire plus haut. Pour finir, comme ça, citer quelques noms qui me parlent énormément. Donc déjà, le musicien qui m'a permis de découvrir le label, qui s'appelle John Balke, avec son Able Warp, hein, qui est sorti en 2016, qui est un mélange de jazz de chambre et de field recording.
Alors, rappelle ce que c'est le field recording pour...
Le field recording, en gros, c'est d'enregistrer des bruits de nature et de les prendre le plus tel quel possible. Donc c'est,
je crois qu'on l'avait déjà évoqué, mais je voulais dire que j'ai
oui, mais c'est... Après, il y a plein d'albums concept, un album concept qui me vient comme ça, donc j'ai plus le nom, malheureusement, de Haseki Saro aussi. Et donc, il avait fait un album sur le Danube. Donc, en fait, il suit le cours du Danube, et en fait, ça mêle autant le bruit des écluses que le bruit du torrent au début, voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc, c'est un album voilà, comme ça. Ensuite, on a d'autres grands noms, c'est par exemple Terje Rybdal, qui lui est très, très atmosphérique, Tomasz Tanko, qui est un de mes favoris de tout le label. Donc lui, il vient du free jazz au départ, donc, notamment l'album Music 4K. Il a fini par s'approprier cette fameux son ECM, mais l'infuser dans le free jazz, et notamment l'album Matka Joana, qui est vraiment une merveille. Ensuite, donc, je citais ouais, Ralph Turner, John Abercrombie, qu'on a écouté précédemment, aussi Herbert Weber, qui est aussi un des tout premiers que j'ai pu écouter. Et lui, c'est surtout qu'il a une guitare qui est fretless, et c'est vraiment, vraiment excellent. Pareil, c'est toute espèce de douceur, de complexe douceur, en quelque sorte.
Surtout que tout ce qui est fretless permet vraiment une souplesse dans la...
Ouais, c'est ça. Tout est toujours autour sur la fluidité continuelle, c'est vraiment, vraiment ça. Après, des gens un peu plus différents, Nils Peter Molvaer, lui, c'est un mélange de jazz, de trip-hop, avec un peu de breakbeat, donc beaucoup plus musique électronique, mais celle des 90. Ensuite, favori de mon père, pour le coup, Anwar Brahem, qui lui, plus tradition musicale arabe, donc c'est... Arabie Jazz, nous dit Rature Music, alors je ne sais pas si ça correspond avec la chose.
Les tags de Rature Music, oui, on pourrait faire une émission dessus aussi.
Ça pourrait être très particulier, mais
ça pourrait être très drôle.
Par contre, c'est vraiment très très bien, Noir Brahem. Et puis après, des noms beaucoup plus connus, Kef Jarrett, donc notamment le live à Köln, qui est extrêmement connu. Et après, Chic Corea, qui est un des très très grands noms du Jazz Fusion. On est vraiment au niveau du Jazz Fusion, qui est extrêmement acrobatique, extrêmement technique. Et oui, d'ailleurs, c'est aussi, peut-être pour un public, parce que peut-être qu'on a un public qui n'écoute pas forcément beaucoup de jazz, et je trouve que une bonne façon de se mettre dans le mood qui permet d'écouter ce genre d'album-là, c'est peut-être de, pour rattacher à des choses que vous écoutez peut-être plus, imaginez que c'est un album de post-rock. Peut-être que ça peut vous aider à mieux rentrer dans leur musique. Je sais pas, parce que c'est quand même très différent sur plein d'aspects. Mais il y a peut-être cette espèce d'état où tu laisses un peu la musique couler, mais tout en l'écoutant tout de même. Peut-être c'est un peu le bon état pour mieux approcher la musique de ce label-là.
Il y a qu'un côté plus doux, mais en même temps, il peut y avoir des moments un peu plus énergiques, on va dire, un peu plus prenants, avec des montées, enfin voilà.
C'est ça, oui. Oui, et comme voilà, c'est aussi un label qui a sa propre identité visuelle, hein, où c'est des pochettes très naturalistes, photos de paysages, avec beaucoup de jeux sur les ombres, la précision des contours, ou des silhouettes de personnes, des silhouettes végétales, des détails de rivières, ou de torrents en mouvement, voilà, c'est toujours... j'essaie d'imager au maximum la fluidité de la musique. Et bien voilà, je pense que j'ai assez parlé sur ECM, à mon avis.
Oui, tu as bien développé, c'est vrai que c'est intéressant, du coup, effectivement, parce que du coup, tu as vraiment toute l'approche un peu... Enfin, on a à peu près les mêmes arguments pour chacun de nos propres labels, hein, évidemment. Mais
après, je pense que moi, je l'ai découvert beaucoup plus tardivement que toi.
Oui, c'est sûr. Moi, je l'ai découvert il y a longtemps, donc c'est un label que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur pour ça. Bon, s'il devait s'arrêter, il s'arrêterait, c'est tout. Mais voilà, qui a marqué une période de mon existence et de mon époque, plus que le fait d'aimer l'esthétique en elle-même. Enfin, ça, au-delà de ça,
c'est que ça m'a marqué. J'aurais pu citer New Standard Elite pour le Brutal Death, évidemment.
Oui, bien sûr. Bah,
j'en ai déjà parlé au moins dans 5 émissions, donc...
Oui, on fera une émission sur le BDM et sur les stupidités, je pense. Pas la prochaine, du coup, parce que là, à mon avis, le temps passe et on va faire que les labels, hein, c'est ce que je t'avais dit, de toute façon.
Oui, bah oui, c'est parti comme ça.
L'autoproduction, hein. On la fera dans la deuxième partie de la partie 2, ouais. Et du coup, oui, enfin, on va essayer de rebondir un peu là-dessus, parce que tu parlais effectivement du jazz, du prix de l'album et tout. Parce que notamment, l'album, on a pu en parler comme format la dernière fois dans notre émission. Il y a une forme de finalité, c'est un peu une espèce de Saint Graal à atteindre. Il y a vraiment ce côté-là qui est encore très présent. Malgré toutes les playlists de streaming Spotify qu'on a pu citer au début de l'émission. Je vais essayer de rappeler un petit peu comment, c'est assez basique, hein, mais il y a plusieurs étapes lorsqu'on enregistre un album. Ceux qui écoutent déjà de la musique depuis longtemps me diront c'est pas voilà, mais ceux qui savent pas trop, bah, effectivement l'écriture, hein, ensuite on a l'enregistrement, et enfin du coup une phase de mixage, puis de mastering. Alors je précise du coup parce que souvent, on confond un peu les deux, mixage et mastering, alors qu'elles ne sont pas du tout les mêmes choses. Histoire de, du coup, de mettre un petit peu les choses au clair, ça permet d'ajouter une petite définition là-dessus. Le mixage, c'est ce qui mélange en fait plusieurs prises de sons et qui les ajuste les unes par rapport aux autres, en fait, pour obtenir un morceau équilibré sur un morceau. Tandis que du coup, en fait, le mastering, c'est une sorte de vernis sonore qui va corriger le volume perçu et qui va amener une homogénéité. En gros, le mixage, on va ajuster les fréquences, la dynamique, la spatialisation. On peut ajouter des effets, compression, réverb, égalisation, delay, ce genre de choses. Tandis que le mastering, voilà, qui est ce petit vernis, ça permet en fait d'ajuster la musique pour qu'elle soit écoutable sur tout support, CD, streaming, etc. Ce qui fait, du coup, ce qui permet de donner un ensemble cohérent à l'œuvre, en fait. Donc, dès le mastering, c'est ça. C'est un peu la surcouche, quoi. On pourrait écouter juste avec le mix, alors qu'en fait, dans le morceau en lui-même, c'est cohérent. C'est, tandis que sur l'album, ça l'est pas forcément. Le mastering permet ça, en tout cas. Ça permet de se rendre compte aussi, c'est qu'il y a ça, donc, et plus tout ce qu'on a évoqué avant. Donc, du coup, qu'un label peut faire, en tout cas, dans l'absolu, s'il fait une proposition complète, donc tout l'enregistrement studio, puis ensuite, du coup, la production avec le pressage sur support physique, la diffusion avec le marketing derrière, donc, ce qui représente quand même un travail, un investissement conséquent, et surtout que, du coup, il va investir quand même de l'argent, même s'il va falloir payer des trucs en tant qu'artiste, comme on pouvait évoquer, c'est que le label va quand même parier sur un artiste qui peut potentiellement fonctionner. Donc du coup, il y a quand même une sorte de pari financier. Alors évidemment, des groupes comme Universal et Warner, ils ont tellement d'argent à brasser que je pense pas que ça soit trop un problème, mais du coup, ils réfléchissent quand même à deux fois avant de se lancer. C'est un peu le rôle premier quand même d'un label, c'est de permettre du coup à la fois d'enregistrer, hein, ce qu'on a pu évoquer au début de l'émission, c'est ces avancées-là. Et ensuite, après, ça s'est développé donc avec l'aspect marketing, donc la création des pochettes. Enfin, on a pu citer du coup des artistes à ce niveau-là. L'idée de quand même de Saint Graal où pour bien réussir, un groupe ou un artiste va devoir passer pour un label pour l'aspect diffusion parce que voilà, il y a une équipe de professionnels derrière. Alors que on verra par la suite, c'est pas forcément. Même si le label a quand même des droits de diffusion, tout ça, il y a tout un truc. Il y a quand même des choses qu'il ne faut pas oublier, parce que du coup, on n'a pas. C'est là où on évoque un peu la partie un peu juridique pour terminer cette première partie d'émission. C'est que du coup, la cession des droits, ce n'est pas libre de toute contrainte, c'est encadré. Hein. Voilà, l'artiste, il ne se fait pas dépouiller totalement de sa musique. Voilà. Comme tu as cité, du coup, le code de la propriété intellectuelle. Du coup, l'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication, la réalisation sous forme numérique, sont les conditions dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'œuvre aucune modification. Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires ou sur l'œuvre réalisée, sous une forme numérique, le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur. Donc du coup, il y a comme une protection sur l'aspect intellectuel, comme une œuvre de l'esprit, en fait, la création. Donc il ne peut pas modifier l'œuvre sans autorisation manuscrite, notamment normalement de l'auteur. Aussi, toujours, du coup, je continue de citer un peu ce petit code du coup de la propriété intellectuelle. Enfin, l'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie à une diffusion commerciale. Autant les labels, ils vont demander aussi d'un autre côté, ils vont demander une exclusivité souvent pour diffuser tel morceau et donc il n'y ait pas d'autres labels qui puissent les diffuser. Donc du coup, ça, c'est écrit dans le contrat. Donc après, il y a aussi des choses en connaissance de cause. Donc c'est à l'artiste après de négocier avec le label pour que ça ne soit pas le cas. On peut avoir aussi des litiges. Donc faut faire, voilà, il y a des clauses comme ça d'exclusivité. Donc faut bien faire attention au contrat qu'on signe. Voilà, enfin, c'est ce côté-là où du coup le droit vient donc bien protéger quand même l'artiste. Hein, donc les labels, même si une fois qu'on est avec eux, que ce soit des petits ou des plus gros, des gros surtout, et puis surtout les grosses majors qui sont quand même très puissants, il y a quand même surtout, notamment là, je parle du coup pour la France exclusivement évidemment, mais qui doit fonctionner certainement un peu, ou une protection quand même de l'œuvre. On fait pas n'importe quoi avec l'œuvre d'un artiste et du coup il peut, voilà, il est quand même dans son bon droit parce que c'est lui qui a créé l'œuvre de façon originale. Et pour finir du coup sur les labels, c'est vrai qu'on évoquait ce côté un peu son, un peu formaté, et puis il y a eu aussi des évolutions au niveau des labels. Alors je rebondis un peu bizarrement effectivement sur la fin du propos sur l'évolution de la place des labels qu'on aurait peut-être pu évoquer avant.
C'est des solutions pour la pérennité financière.
Oui, c'est ça, les solutions pour la pérennité financière du coup des labels, surtout parce qu'on a bien vu que l'artiste touchait pas tant que ça finalement sur du coup la partie sur en fait ce que ça lui rapporte sur les royalties, 5-10%. Et malgré du coup les protections qu'on vient de voir du coup au niveau du droit, le label Pelagic par exemple qui propose un abonnement où on reçoit du coup un vinyle chaque mois, ou en tout cas au minimum 12 vinyles par an. Donc ce qui fait qu'un vinyle par mois du coup sur une année pour à peu près
c'était 40€.
40€ par mois, une quarantaine d'euros.
Sachant que tu avais aussi droit à 3 vinyles de leur back catalogue au moment de l'inscription.
C'est ça.
Donc ça fait un peu moins de, ça doit faire quelque chose comme 33€ le vinyle à peu près.
Exactement.
Elle a très grosse. Hein.
C'est ça, plus accès à des soldes, des trucs prisés.
Et après, t'as moins 10% sur tout le store dans tous les cas.
Exactement. Donc, si t'es vraiment un aficionado du label, c'est quand même pas inintéressant d'avoir ça. Parce que du coup, tu reçois ton vinyle déjà tous les mois. En plus, tu peux acheter du coup en plus un petit vinyle en plus avec 10%.
Et puis, c'est profiter de ça. Une petite soutien, ce qui explique que. Voilà, parce que Et c'est 33 euros, c'est les frais de port pris en compte, donc ça peut paraître cher de base, mais en fait, 33 euros pour un LP, si tu t'achètes un LP sur Discogs, s'il coûte plus de 20 euros, tu peux vite en avoir pour 40 euros le LP.
C'est ça, donc les frais de port, et puis en plus, on ne parle même pas si ça vient des États-Unis, c'est encore pire. Donc voilà, il y a quand même ce côté-là qui n'est pas désagréable, et, enfin, avec ce genre de proposition qui pourrait peut-être tendance à se démocratiser. Je connais pas d'autres labels qui le font, cela dit, mais est-ce que c'était l'exemple qu'on avait noté. Mais donc voilà, il y a cette possibilité là. Donc c'est aussi là, cet exemple-là montre bien l'évolution du coup l'approche des labels par rapport aux musiciens, par rapport à la musique, tout ça, et qui cherche quand même toujours un peu à fidéliser un peu sa clientèle, parce qu'il y a une esthétique, pareil, une esthétique Pelagic Records, il y a une esthétique. Enfin voilà, c'est ce qu'on évoquait. Il y a quand même une esthétique par label souvent. Du coup, pour essayer de répondre un petit peu à la question qu'on se pose au départ, avant du coup d'aller voir on parlera de l'autoproduction à la prochaine émission, plus en détail. Est-ce que du coup il y a une vraie autonomie par rapport au label? Alors oui, on pourra le voir parce qu'il existe effectivement des labels indépendants qui sont créés par les musiciens eux-mêmes. Enfin voilà, on y reviendra plus en détail sur la prochaine émission. Hormis le droit qui vient quand même protéger l'œuvre de l'esprit, le label a comme une bonne mainmise sur si une fois qu'on signe avec un assez gros label ou avec un label, il y a avec le contrat une bonne mainmise quand même sur la musique, sur la distribution, et c'est comme le label du coup qui est l'intermédiaire, bon, qui prend effectivement, on a vu les risques financiers, mais à qui ça rapporte quand même le plus d'argent, tandis que l'artiste qui a créé l'œuvre ne touche pas forcément toujours l'argent. Bon, après, c'est aussi une sécurité, il y a un label, il fait la diffusion, pas dire que l'artiste a rien à faire, c'est juste que du coup ça lui permet quand même de se concentrer plus sur la création musicale. Et donc de moins penser à l'aspect marketing, tout ça, qui est peut-être pas forcément facile à maîtriser, parce que ce sont aussi des compétences, des outils, des logiciels, etc. Enfin, on y reviendra sur la partie autoproduction, encore une fois, je vais pas trop extrapoler. Mais du coup, voilà, c'est aussi ce pendant-là. Donc, encore une fois, c'est pas tout blanc, tout noir, où les labels, c'est pas bien, et puis l'autoproduction, c'est mieux. C'est juste que du coup, ça a encore une fois, du coup, ses avantages et ses inconvénients. Et du coup, les labels ont quand même cet avantage de sécurité, je pense quand même, s'il y a quelque chose qui devrait ressortir de ça, c'est que, je sais pas ce que tu penses, mais du coup, il y a quand même une sécurité pour l'artiste en général, quand ça se passe bien globalement.
Bah après, c'est plus que le label a quand même, sur la forme du contrat, c'est quand même, comme ça reste un rapport de force, le label, c'est quand même le label qui a le plus la mise sur le contrat. Par exemple, je pense notamment sur le rythme de sortie, parce qu'un label peut ordonner, il n'y a pas vraiment d'autres termes. Un groupe, ben voilà, vous avez votre premier album, c'est très bien, mais nous, dans 3 ans, on en veut un autre. Et peut-être qu'en fait, le premier album, il a mis 5 ans à être fait, et que le faire rentrer en 3 ans, derrière, ce ne sera pas le même résultat. Et d'ailleurs, après, ça s'entend assez bien. J'avais évoqué d'autres pratiques que je voulais évoquer aussi, notamment, c'est que par exemple, alors, on ne va pas citer de nom ou quoi que ce soit, c'est pas le but, mais on parlait de royalties, mais sauf que parfois, les royalties, il y a une partie des royalties ou un supplément des royalties qui va être payé en nature. Et en nature, c'est quoi? C'est du merch, des CD. Et bon, bah derrière, on vous dit, bah oui, le CD, là, on vous donne 200 CD, ça équivaut à tant d'argent. Mais derrière, le CD, il faut les vendre. Ça veut dire qu'en gros, si tu ne fais pas de live pour écouler tes CD, parce que c'est là où tu as le plus de chances d'écouler tes CD, sachant qu'un live, ça coûte de l'argent, en fait, tu ne pourras pas écouler tes CD. Tu donnes des CD que tu vas devoir réussir à vendre, mais pour les vendre, il faut que tu prennes également des risques financiers pour pouvoir les vendre. Donc c'est un peu. Voilà. C'est plus, je dirais. Pas tant au niveau de la protection, c'est sûr que la loi encadre la protection. Effectivement, il y a toujours un besoin de distribution qui est là de base, hein, donc sans le label, ça va être difficile. Mais mine de rien, comme souvent, le rapport de force, il est quand même plus aligné dans un sens que dans l'autre, quand même. Même si c'est pas pour autant que le label est inutile. Et puis, du point de vue de l'auditeur, c'est quand même le label, voilà, qui crée cette cohérence artistique qu'on a pu développer tout du long, qui est quand même très appréciable et qui, peut-être sur le temps long, s'avérera plus valable pour le groupe au final.
Effectivement, et puis pour juste terminer, et puis après, du coup, je propose qu'on ajoutera un petit morceau bonus sur la fin de cette première mission, du coup, vu que ça sera en deux parties. Un petit morceau de, je pense, j'improvise un peu de Penceslo, du coup, douceur, du coup, le morceau Mirror Rim, je pense, voilà, qui sera sympa. Du coup, Decide, en fait, avait signé un contrat de 5 albums avec Roadrunner.
Ouais, c'était ça.
Et en fait, du coup, sauf que, ils avaient pas envie de continuer, mais ils devaient quand même tenir leur contrat. Donc, d'où la contrainte quand même du label, mais de rien, voilà, enfin, exemple concret. Et du coup, ils ont sorti leurs albums, mais c'était des albums qu'ils avaient pas envie de faire.
Il y a deux albums qui sont vraiment pas bien du tout, quoi. Ils sont extrêmement basiques, extrêmement directs, et on sent qu'ils ont été rushés juste pour le contrat soit honoré, en fait.
Exactement, exactement. Donc, du coup, ils ont fait ça, et puis pour casser le contrat, entre guillemets, mais de façon, du coup, sans... Donc, voilà, du coup, on abordera dans la prochaine partie autoproduction et... Et du coup, là, c'est ce que tout aussi, ses avantages et aussi ses inconvénients. Est-ce que ça permet, est-ce que ça ne permet pas? Les réalités aussi un peu financières derrière tout ça. Donc, on a hâte de vous présenter tout ça un peu plus en détail, en tout cas. On espère que cette première partie de la seconde émission sur le espèce de triptyque où on parle un peu des musiques.
Sur la distribution de la musique, musique
en général,
hein.
C'est ça, voilà. Voilà, ça vous aura plu. Et puis du coup, bah, on vous laisse pour terminer cette première partie avec du coup Mirror Rim de Penceslo.
Et nous, on se retrouve en septembre, puisque pas d'émission en août, puisqu'on est en vacances, c'est des choses qui arrivent.
Ah oui, ça fait du bien, il faut.
Et des bisous à tous.
Des bisous à tous.
À la rentrée.
À la rentrée.